France Inter.
Aujourd'hui, dans l'œil des cyclones, raconté par...
Ludivine Ouruba, maître de conférence à Sorbonne Université et chercheuse au Latmos.
Et Bernard Legras, directeur de recherche émérite au laboratoire de météorologie dynamique.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
L'histoire se déroule pendant la guerre de Crimée en 1854 qui oppose l'Empire russe à une coalition formée par l'Empire ottoman, la France, l'Angleterre et le Royaume de Sardaigne. Depuis la fin octobre, le temps qui jusque-là s'était montré doux et radieux avait changé du tout au tout. Il était devenu brumeux, humide, parfois glacial. Durant la nuit du 13 au 14 novembre, un vent violent du sud-ouest chassait devant lui des flots de pluie. De sinistres tourbillonnements semblaient déjà prêts de soulever les tentes du sol où elles s'étaient fixées et de les emporter dans les airs. Les tentes qui servaient d'hôpitaux aux Anglais furent en raison de leur hauteur les premières renversées, laissant à découvert les pauvres malades, les malheureux blessés, exposés presque nus au vent qui sifflait et au torrent de pluie. Le sol ne laissait plus voir qu'une surface de boue noire et collante couverte des débris enroulés des tentes. Les tranchées n'étaient plus que des canaux qui débordaient et desquels les malheureux soldats s'échappaient à travers les terres détrempées. Mais le spectacle navrant qu'offrait la terre était cruellement dépassé par les scènes d'horreur que présentait la mer. Le vent ayant commencé à souffler violemment du sud-ouest vers 8h du matin, les flots n'avaient pas tardé à devenir monstrueux. Les bâtiments français et anglais avaient mouillé tout ce qu'ils possédaient de chaînes et d'ancre, mais bientôt, les chaînes furent brisées. Les coups de roulis et de tangage étaient épouvantables. Nul ne pouvait rester sur le pont sans se cramponner au plat-bord ou à quelques mâts. Des graines de grêle de neige arrivant par rafale coupaient la figure, glaçaient les mains des malheureux matelots qui auraient eu si grand besoin de toute leur force. À travers les rares éclaircies, on ne découvrait que des sinistres. C'étaient des bâtiments qui s'entrechoquaient violemment et se brisaient, des transports qui dérivaient et faisaient côte, des navires qui s'entrouvaient et s'engloutissaient corps et biens. Cette tempête au large de Sébastopol en mer Noire a causé la perte de 40 navires, dont le vaisseau français Henri IV. Urbain Le Verrier, à l'époque directeur de l'Observatoire de Paris, s'appuie sur ce désastre maritime pour convaincre Napoléon III de créer un service météorologique destiné à avertir les marins de l'arrivée des tempêtes. Et c'est ce qui fut fait en 1855. Ludivine Ouruba et Bernard Legras, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Cette tempête de 1854 en pleine guerre de Crimée a été un événement à la fois météorologique et politique qui a été donc le déclencheur pour mettre au point des outils de surveillance de perturbations atmosphériques à l'époque. Bernard Legras, c'est comme ça que ça s'est passé ?
En effet, cela a été le début des services météorologiques opérationnels et on a très vite compris que pour pouvoir faire des prévisions, il fallait échanger les données entre les nations, les différents observatoires, et c'est ainsi que peu à peu a été mis en place le service météorologique mondial tel qu'on le connaît actuellement, où les données s'échangent dans la minute qui suivent les observations et qui permettent de faire les prévisions dont tout le monde bénéficie.
Ouais. Cette tempête, donc en 1854, hein, aurait traversé la France dans les jours précédents, et la flotte française présente donc en Crimée aurait pu, si ça avait existé, être alerté du danger à venir et s'épargner donc un bilan catastrophique. Hein.
Tout à fait.
Donc c'est ce qui s'est passé avec Napoléon III, qui a donc accepté de mettre en place cette première station.
Oui, et toutes les autres nations l'ont vite rejoint, parce que tout le monde a rapidement compris l'intérêt d'avoir ce service météorologique mondial, et les données ont continué à s'échanger avec l'exception des deux guerres mondiales,
ouais.
Mais il n'y a jamais eu d'interruption, hormis ces deux cas-là, de l'échange des données qui permet de faire à tout le monde des prévisions en bénéficiant des données, des observations sur toute la planète.
Donc date importante dans l'histoire des cyclones dont nous parlons aujourd'hui avec vous. Cyclone Chido à Mayotte, Garance à La Réunion. Ces dernières années, évidemment, ces événements ont eu des retentissements très très importants avec des bilans à la fois humains et matériels extrêmement lourds. Ludivine Ouruba, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents dans le monde, ces cyclones, ou est-ce que c'est un effet loupe aujourd'hui en raison de la médiatisation aussi beaucoup de ces phénomènes ?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont extrêmement médiatisés. Lorsqu'il y a un cyclone tropical ou un ouragan, on en parle très vite dans les médias pendant plusieurs jours.
Ouais.
Sachant que, donc, pour estimer des tendances, il faut pouvoir avoir un nombre suffisant de données, d'observations. Donc, dernièrement, on a eu des ouragans très intenses. Mais c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce que le nombre de cyclones, le nombre d'ouragans, c'est quelque chose qui... Il y a des tendances qu'on peut observer. Mais disons que c'est difficile de dire s'il y en a plus parce que on a une variabilité climatique.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a des cycles, il y a des cycles dans l'atmosphère, il y a le cycle solaire, il y a le phénomène El Niño, donc on a des cycles qui vont faire évoluer les nombres de cyclones au cours des années, et donc en fonction de ces cycles aussi, on va avoir un nombre de cyclones qui va changer.
Donc difficile de dire s'il y en a plus, et concernant l'intensité, est-ce qu'il y a des choses quand même aujourd'hui qui sont notables ou pas ?
C'est une question difficile. Certaines années, par exemple en 2017, on a eu les ouragans Irma, les ouragans Maria, qui étaient particulièrement intenses, qui ont subi des phénomènes d'intensification rapide. Donc ces cyclones-là étaient vraiment des événements exceptionnels. Après, les années qui ont suivi, il y en a eu un petit peu moins. Alors on a eu Milton cette année, qui a vraiment eu une intensité, donc c'était un ouragan de catégorie 5, donc assez exceptionnel. Donc on a des ouragans exceptionnels régulièrement selon les années.
Bernard Legras, quelles sont les différences d'ailleurs entre cyclone, tempête et ouragan, pour essayer de bien comprendre de quoi on parle, ou est-ce qu'on parle exactement de la même chose finalement selon les régions du globe?
Alors, la tempête de Crimée n'était pas un cyclone tropical, ouais. Ça se produisait à des latitudes beaucoup trop élevées, donc les cyclones des latitudes tempérées sont des phénomènes qui obéissent à des mécanismes différents de ceux des cyclones tropicaux. Par contre, cyclone et ouragan, enfin, au tropical, c'est la même chose. Enfin, les noms différents, typhon, cyclone, qu'on emploie dans différentes régions de la planète, représentent le même phénomène.
Et donc, en Crimée, on aurait dû prendre quel terme ? Tempête, hein, tout
c'était
simplement
C'était une grosse tempête, oui.
Ouais. Quels sont les ingrédients, Ludivine Oruba, dont les cyclones ont besoin pour exister, pour se former, alors ?
Donc les cyclones, ce sont des tourbillons qui se développent à la surface de l'océan. Donc ils ont besoin d'avoir un océan suffisamment chaud. Donc en général, on parle d'une température d'à peu près, supérieure à 26 degrés sur les 50 premiers mètres de l'océan.
Donc la surface et les 50 mètres suivants.
Et les 50 mètres suivants donc, doivent être plus chauds que 26 degrés.
Ouais.
Et puis, ils ont besoin de ce qu'on appelle la force de Coriolis, qui est une force qui existe à cause de la rotation de la Terre sur elle-même. Et donc ces cyclones, ils vont se développer suffisamment loin de l'équateur pour pouvoir bénéficier de cette force de Coriolis. Parce que cette force de Coriolis, elle s'annule à l'équateur et elle est d'autant plus importante qu'on est haut en latitude. Et donc finalement, ça va définir ce qu'on appelle des bassins cycloniques, c'est-à-dire des zones dans lesquelles ces conditions, donc un océan suffisamment chaud, on est suffisamment loin de l'équateur, donc ces conditions sont réunies pour aider à la formation d'un cyclone.
Donc Bernard Legras, ces conditions particulières-là, elles conditionnent aussi les endroits où les cyclones peuvent se former sur la planète. Ça veut dire qu'il y en a moins autour de l'équateur parce que justement la force de Coriolis n'est pas suffisamment puissante ?
Alors à l'équateur même, et sur une bande autour de l'équateur, on n'en observe pas.
Ouais.
Il faut être un peu plus au sud ou un peu plus au nord et avoir effectivement un océan assez chaud et des conditions de genèse favorables. Il y a sur la planète, un certain nombre d'endroits qui fonctionnent un peu comme des nurseries à cyclones.
Et carrément.
Dans l'Atlantique, c'est la région des îles du Cap-Vert. Bon, il y a aussi des cyclones qui naissent dans le golfe du Mexique ou d'Amérique, on ne sait plus très bien. Et ces cyclones-là, donc, se développent, ceux de la nurserie des îles du Cap-Vert, en traversant l'Atlantique, où ils s'intensifient, et éventuellement, ils peuvent atteindre les Antilles, la Floride, enfin, ou remonter dans l'Atlantique et se perdre dans l'océan.
Et dans cette pouponnière, alors, ça ressemble à quoi, un bébé cyclone, alors, au tout départ
Ça ressemble à un amas de nuages qui, peu à peu s'organise en un mouvement tourbillonnaire qui peu à peu prend la forme caractéristique du cyclone, qui est une très belle machine à observer, avec éventuellement, quand il a atteint un stade mature, cet œil central qui caractérise les cyclones.
Donc il y a des régions du monde où on ne peut pas avoir de cyclone, l'Union Ruba, c'est ça que ça veut dire aussi ?
Complètement.
Ouais. On ne verra jamais de cyclone. Alors peut-être qu'à la faveur du réchauffement climatique, les choses pourraient changer.
Elle pourrait évoluer, mais pour l'instant, en tout cas, par exemple, dans l'Atlantique Sud, on n'a pas de cyclones tropicaux. Donc le Brésil n'est pas menacé par les cyclones.
L'eau est trop froide dans l'Atlantique Sud. L'eau de surface remonte de l'océan Antarctique et elle est trop froide pour la genèse des cyclones. À l'équateur, on n'en verra jamais. Ouais. Ça, c'est sûr. Si vous habitez Singapour, vous ne verrez jamais de cyclone. Par contre, il se pourrait qu'on en voit remonter à nos latitudes dans l'Atlantique. Ce n'est pas impossible dans le cadre du réchauffement climatique qui conduit quand même de façon assez générale à intensifier tous les phénomènes extrêmes atmosphériques.
Ouais, on en parlera avec vous évidemment tout à l'heure. Vous parliez de l'œil du cyclone. Est-ce que d'abord vous avez eu l'occasion d'aller dans l'œil d'un cyclone ou pas?
Non, fort heureusement.
Pourquoi? Mais ça pourrait être intéressant parce qu'il y en a qui le font évidemment.
Oui, alors ils le font surtout pour les... Il y a des chasseurs de tornades.
Oui, c'est ça.
Surtout.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est un phénomène un peu différent. Hein. C'est pas la même échelle spatiale. C'est une structure qui est beaucoup plus étroite, hein, quelques centaines de mètres.
On n'en voit pas d'avion dans l'œil des cyclones?
Alors, on envoie des vols, si les Américains effectuent des vols de reconnaissance dans les cyclones. Donc, c'est des avions spécifiques qui sont designés par la NASA pour pouvoir résister aux conditions extrêmes dans le cyclone. Et donc, ces avions volent. Alors, ils traversent d'abord le mur de l'œil du cyclone.
Ce qui est le pire du cyclone, en fait, ou pas?
Complètement. C'est la zone la plus dangereuse. C'est la zone où on a les précipitations les plus intenses et où on a les vents les plus forts.
C'est-à-dire, ça peut aller jusqu'où, par exemple?
250 km/h.
Ouais, donc dans le mur.
Hein. Dans le mur de l'œil. Le mur de l'œil. Donc l'avion, donc on trouve des vidéos sur Internet, hein, donc on voit l'avion qui traverse le mur et qui tout à coup arrive dans l'œil du cyclone. Donc il y a une zone au centre du cyclone dans laquelle on n'a pas de précipitation, on n'a pas de vent, parfois même on a le soleil.
Donc là c'est calme.
C'est complètement calme. Ouais. Et donc évidemment si l'avion continue sa trajectoire, il va finalement rencontrer l'autre côté du mur de l'œil du cyclone et là se retrouver à nouveau dans les vents intenses et dans les précipitations. Donc être dans l'œil du cyclone, c'est vraiment pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous avez été traversé d'abord par le mur de l'œil et puis que vous allez, quelques heures plus tard, être de nouveau balayé par le mur de l'œil.
Oui, il faut en sortir ensuite. Hein.
Tout à fait.
Bernard Legras, jamais, vous non plus, vous n'êtes allé dans l'œil d'un cyclone?
Non, je connais des collègues qui l'ont fait, qui sont parfois redescendus vers de l'avion d'ailleurs.
Parce j'imagine.
Que bon, même si c'est moins dangereux en réalité d'aller dans ces nuages-là que d'aller dans un grand nuage d'orage, parce que il y a des mouvements très puissants mais très réguliers également. Tandis que dans les nuages d'orage, vous pouvez avoir des cisaillements très forts avec une aile qui est soulevée, une autre qui est abaissée brutalement et l'avion qui se casse. Là, l'avion ne se casse pas, jusqu'à présent, ils n'y sont pas parvenus, mais ils sont quand même très secoués. Qui que ce soit d'essayer de les imiter.
Comment prévoir, anticiper les cyclones? C'est ce que nous verrons dans un instant. Puis vous répondrez également aux messages qui arrivent sur le site de l'émission, sur la page de La Terre au Carré.
La Terre au Carré. Mathieu Vidar sur France Inter.
Quand je vois un ouragan comme celui-ci, je ne peux pas m'empêcher de penser à ceux qui sont en dessous.
L'appareil décolle comme le ferait un avion militaire classique. Mais la traversée prévue est exceptionnelle. La mission de ces pilotes de l'armée américaine, mesurer la puissance de l'ouragan. Ils s'apprêtent à survoler Irma. Turbulences violentes, vision brouillée par l'épaisseur des nuages, ces chasseurs d'ouragans risquent leur vie pour récolter des données précieuses.
Extrait d'un reportage de France 4 en 2017, donc avec l'ouragan Irma qui avait causé des dégâts catastrophiques dans les îles des Caraïbes. Ludovine Oruba, Bernard Legras, vous êtes nos invités cet après-midi donc pour nous parler cyclone. On reviendra dans quelques minutes avec vous sur les événements qui ont frappé ces derniers jours, ces derniers mois, Mayotte et l'île de la Réunion. Ludovine Oruba, est-ce que les cyclones sont des phénomènes qu'on peut très facilement anticiper aujourd'hui ou est-ce que la science, elle, bute encore sur des difficultés là-dessus?
Alors en fait, dans les dernières décennies, on a fait beaucoup de progrès en ce qui concerne la prévision des trajectoires des cyclones.
Ouais.
Donc on ne sait pas prédire évidemment précisément une trajectoire, mais par contre on fournit aux gens ce qu'on appelle des cônes de probabilité, c'est-à-dire des trajectoires potentielles avec une marge d'erreur. Ouais. Mais disons que cette marge d'erreur, elle est quand même assez faible. Alors, elle est toujours de quelques dizaines de kilomètres, et sachant que quelques dizaines de kilomètres, ça peut évidemment être dramatique. Hein, si qu'une île soit touchée par un cyclone ou pas touchée par un cyclone, ça change tout. Mais par contre, ce qui est difficile pour nous actuellement, c'est de prévoir l'intensité des cyclones. Ça, c'est quelque chose qui est compliqué. Alors, je peux vous donner un exemple. Peut-être que vous vous souvenez de l'ouragan Otis qui a dévasté Acapulco en octobre 2023.
Ouais.
Donc, c'était un ouragan de catégorie 5. Et quand il a atteint Acapulco, ses vents dépassaient les 250 km/h. Et en fait, 24 heures avant, le Service national de prévision météorologique américaine ne prévoyait des vents que de 110 km/h. Donc, ils ont pas du tout réussi. En tout cas, 24 heures avant, ils n'avaient pas du tout anticipé l'intensification
de
l'ouragan Otis.
Qui a eu cette marge d'erreur tellement importante?
Alors, c'est encore à l'étude aujourd'hui, hein, ouais. C'est encore un sujet d'étude pour essayer de comprendre cet échec, hein, qui est vraiment un gros échec en termes de prévision, sachant que ce qui se dessine actuellement, c'est qu'on aurait mal représenté l'interaction entre le cyclone et l'océan, qui est en dessous et dans lequel le cyclone tropical puise son énergie. Donc, il faut encore qu'on comprenne pourquoi.
Ouais. Donc, difficulté d'estimer l'intensité. Ouais. On peut, par contre, tracer la trajectoire. Donc, ça, on le comprend bien avec ces cartes. Est-ce qu'on peut, Bernard Legras, vous parliez de cette pouponnière tout à l'heure de cyclones, par exemple, sur le Cap Vert. Est-ce que, d'abord, c'est une zone très observée? Et est-ce qu'on peut se dire qu'en observant cette pouponnière, on peut estimer aussi la survenue d'un cyclone et quand même une forme d'intensité ou pas?
Tout à fait. Alors, cette pouponnière, comme les autres zones où naissent les cyclones, sont très surveillées, notamment par les satellites, qui sont les instruments de surveillance les plus efficaces à l'heure actuelle. Et la détection des cyclones est faite. Elles sont ensuite suivies, heure par heure, avec des observations souvent concentrées sur ces cyclones. Par exemple, pour les cyclones des Antilles, il y a ces avions américains qui volent effectivement à l'intérieur ou au-dessus, en lâchant des instruments ou en faisant des observations à bord de l'avion lui-même, qui sont très précieuses pour informer les modèles de prévision de la situation précise du cyclone et pouvoir mieux le prédire, sa trajectoire et son intensité. Il y a une grosse difficulté dans la prévision de l'intensité, c'est ce qu'on appelle le phénomène de renouvellement de l'œil ou du mur de l'œil, enfin le mur de
donc ce mur qui entoure l'œil en fait.
Oui, hein, c'est le moteur du cyclone et de temps en temps il s'effondre. À ce moment-là, le cyclone s'affaiblit légèrement. Et il renaît un nouveau mur derrière qui peut soit renforcer, soit affaiblir le cyclone.
Ça, c'est dur,
c'est très difficile à... Vous voyez, il change de moteur en plein vol.
Ouais.
C'est pas très bon joueur.
Ouais.
Et c'est très difficile à prévoir, ça.
Et sur les trajectoires, Ludivino Ruba, on peut avoir quelle anticipation, alors à plusieurs jours ou pas? Pour essayer de faire des cartes plus précises possible.
Donc en général, quand on a un ouragan qui se forme, donc il y a des modèles, donc on utilise des modèles de prévision qui font des prévisions à plusieurs jours, sachant que ces prévisions, elles sont chaque heure, ou en tout cas, elles sont régulièrement contraintes par les observations, par l'état réel du cyclone tropical. Et donc, finalement, ces prévisions, elles sont ajustées au cours du temps.
Elles sont réactualisées avec les nouvelles données en permanence.
De ce qu'on a observé.
Ouais.
Donc, encore une fois, c'est quelques jours, mais c'est réajusté à chaque fois en fonction de ce qu'on observe.
Bernard Legras, il y a une veille cyclonique à l'échelle de la planète. Il y a vraiment un réseau quotidien qui scrute...
Ah oui, tous les centres météorologiques mondiaux... surveille cela. Alors, les différents centres se répartissent la tâche. Par exemple, pour les Antilles, ce sont les Américains qui sont responsables plus particulièrement du suivi. Dans la zone de l'océan Indien Sud, par exemple, c'est la France qui s'occupe de cela avec un établissement qui est situé à La Réunion qui travaille directement sur ces problèmes-là. Dans d'autres régions, ce sont les Japonais, etc. Donc, il y a une distribution des responsabilités en fonction, bien entendu, des intérêts
Et alors, ça se surveille comment? Alors, vous parliez des satellites tout à l'heure. Quels outils, quels instruments permettent justement d'avoir un bon suivi?
L'imagerie des satellites permet de voir très rapidement la formation d'un cyclone. Ensuite, il y a des instruments plus précis qui vont être capables de faire des mesures des précipitations à l'intérieur du cyclone, de l'intensité réelle du phénomène. Et puis, il y a effectivement, si on veut faire des mesures précises de ce qui se passe au niveau du sol, il reste très utile d'avoir quand même des observations in situ, faites à partir soit d'instruments au sol. Alors, il n'y a pas beaucoup d'instruments à l'intérieur des océans, donc il faut lancer des sondes depuis des avions, ou il y a des instruments plus récents, là, à partir de planeurs océaniques, qui permettraient d'observer ces systèmes dans des zones qui sont quand même vastes et peu équipées, puisque c'est au milieu des océans.
Mais on a quand même voilà, des sondes, des bouées,
il y a des bouées,
des radars.
Il y a des bouées, il y a des drones flottants, justement. Donc oui. Eux, ils sont envoyés à l'intérieur des ouragans. Donc quand il y a par exemple un ouragan qui menace les États-Unis, donc c'est des structures assez grandes. Elles font 7 à 8 mètres de haut. Et en fait, elles sont designées pour pouvoir continuer à faire des mesures à l'intérieur même de l'ouragan. Les premières mesures qui ont été faites dans l'ouragan Sam en 2021.
Est-ce que l'intelligence artificielle, vous n'allez pas y échapper, permet aujourd'hui d'améliorer les données pour anticiper ou pas? Est-ce que c'est déjà utilisé comme instrument?
Je crois que c'est utilisé, ça a été utilisé pour produire un modèle de prévision du temps par les Américains, je crois, récemment. Et de ce que j'avais lu, les performances du modèle étaient plutôt bonnes. Mais je crois que pour l'instant, il a plutôt été testé sur des situations météorologiques générales.
Que pour un événement particulier.
Ouais. Sachant que là, les modèles qui sont utilisés actuellement pour la prévision, parmi les modèles qui sont actuellement utilisés pour la prévision des cyclones, on a des modèles dits statistiques qui se basent sur la connaissance des cyclones du passé. Donc ça, c'est un type de modèle. Voilà, on utilise ce qui s'est passé par le passé, justement.
On se nourrit de tout cela
pour essayer d'anticiper comment l'ouragan actuel va évoluer.
Bernard Legras.
De façon générale, l'intelligence artificielle est en train d'améliorer beaucoup de choses. D'une part, il faut quand même l'entraîner à partir de modèles physiques très très sophistiqués, mais on arrive ainsi améliorer la vitesse avec laquelle on peut faire les prévisions, ça c'est quand même quelque chose d'important, d'avoir des prévisions très très rapides. Et puis ça peut servir aussi, bon, on va pas entrer dans les détails, dans l'interprétation des données pour tirer le plus d'informations possibles des données.
Ouais. Ludivine Urba, qu'est-ce qu'on peut faire face à un cyclone aujourd'hui? Qu'est-ce que l'humain peut faire? Alors on a essayé de détourner des astéroïdes, est-ce qu'on arrive à détourner des cyclones aujourd'hui ou pas? Il y a des choses qui ont été testées en ce sens?
Alors, il y a des tests qui ont été effectués par le passé. Alors, le projet qui a été le plus abouti, c'était dans les années 60-70. C'était le projet Storm Fury. Et donc, pendant ce projet, les Américains ont ensemencé du iodure d'argent à l'extérieur du mur du cyclone, sachant que l'idée, c'était d'essayer de former des nuages à l'extérieur du mur et donc de déstabiliser l'intérieur du cyclone.
Donc c'était réduire l'intensité du phénomène, en fait
En l'étalant,
En saupoudrant.
En saupoudrant et en essayant de faire en sorte que les nuages se forment plus loin, quoi.
Donc, projet assez casse-gueule, ça a fonctionné ou pas?
Non, il n'y a pas eu de résultats probants et en plus, ça a été jugé très très cher, donc ça a été abandonné. Alors après, il y a d'autres projets qui ont été imaginés, mais qui n'ont pas forcément été concrétisés. Alors, dans le même esprit, dans l'un des projets, il s'agissait de mettre de la suie autour du mur du cyclone, en faisant brûler des hydrocarbures en périphérie du cyclone tropical. Donc ça, c'était un projet qui n'a pas été réalisé, à ma connaissance, mais voilà, qui était proposé.
Sur le papier,
proposé.
En tout cas, ouais.
Après, il y a eu des propositions qui ont été faites d'empêcher l'évaporation de l'eau à la surface de l'océan, parce que le cyclone se nourrit de cette évaporation. Donc, en étalant...
Des grandes couvertures.
Des films d'hydrocarbures, ça a été proposé
décidément.
Ou d'huile. Voilà, pour essayer de limiter cette évaporation.
Ouais. Mais tout sans succès, Bernard Legras.
Heureusement, ça n'a pas été vraiment essayé. Mais il y a eu des idées assez loufoques qui ont été évoquées. Bon, il y a aussi des théories conspirationnistes sur l'influence qu'on pourrait avoir sur les cyclones. Mais non, on ne peut pas faire grand-chose.
La France est régulièrement frappée par des cyclones. La Réunion, Mayotte ont été les derniers événements marquants. On en parle avec vous dans un instant. Et puis vous répondrez aux messages et aux questions qui arrivent pour vous sur la page de La Terre au Carré sur franceinter.fr.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré.
Des rafales de vent à plus de 220 km/h. qui emportent les toits et font trembler les lignes électriques. Le cyclone Chido, à ce moment-là, est au plus fort de sa puissance.
Mes amis, j'ai plus de maison. Chido a tout pris.
À Mayotte, de nombreuses habitations sont précaires, souvent des cases faites de tôles qui n'ont pas résisté au cyclone. Selon les météorologues, la catastrophe est d'une ampleur hors norme.
France 24, en décembre dernier, Ludivine Oruba, Bernard Legras pour parler cyclone avec nous. Durant les derniers mois, donc, deux cyclones ont touché la France. Chido donc à Mayotte en décembre, Garance à La Réunion fin février, avec donc des bilans humains, matériels très lourds. Pour Chido, des rafales de vent à plus de 220 km/h. Garance, 230 km/h sur le piton Sainte-Rose, à l'extrême est de l'île de La Réunion, avec des cumuls de pluie dépassant les 400 mm dans l'intérieur de l'île. Bernard Legras, est-ce que ces deux phénomènes sur deux îles françaises sont des cas un peu à part ?
Ce sont deux cyclones intenses et nous avons eu la malchance que deux cyclones intenses passent pile sur La Réunion et sur Mayotte la même année. Si on tient compte de l'espace qu'ont ces cyclones à leur disposition pour se déplacer, c'est vraiment une malchance exceptionnelle, je pense. Il n'y a pas de raison particulière pour que les îles attirent les cyclones. Mais effectivement, oui, c'est...
C'est l'ampleur qui est exceptionnelle. Qu'est-ce qui fait que ça a surpris même les scientifiques, en fait ?
Les deux cyclones eux-mêmes n'ont rien d'exceptionnel. Il s'est trouvé qu'ils sont passés juste pile sur les deux îles la même année.
Mais on lit que les valeurs de vent mesurées sont exceptionnelles, Ludivine Oruba.
Alors c'était des ouragans de catégorie 2 et catégorie 3, donc il y a déjà eu des ouragans avec cette intensité de vent-là. Alors là, il faudrait parler de cyclones tropicaux parce qu'on est dans le bassin de l'océan Indien.
Oui.
Mais dans le bassin de l'océan Indien, il y a déjà eu des cyclones tropicaux avec cette intensité de vent-là. C'est juste qu'ils n'étaient pas passés sur des territoires français.
Bernard Legras.
Par exemple, Madagascar est une île qui est située juste en travers de la trajectoire des cyclones. Et tous les ans, ils ont des cyclones de cette intensité qui atteignent l'île. C'est exceptionnel pour La Réunion, parce que c'est une toute petite île, pour Mayotte aussi, ce sont deux petites îles, et il est rare que les cyclones passent juste dessus, et encore plus rare que ce soit la même année. Je ne pense pas qu'on ait d'exemple que ça se soit produit dans les enregistrements historiques.
Est-ce qu'on a des archives géologiques du passage de cyclones dans l'histoire de la Terre ou pas ? Est-ce que certains peuvent laisser des traces au point qu'on puisse documenter de tels événements sur des temps anciens très lointains ou pas ? Ou est-ce que c'est très compliqué ?
Ça, c'est une bonne question, mais les dégâts que forment les cyclones sont souvent liés à l'eau. Et liés aux glissements de terrain, liés aux inondations, donc cela laisse des traces géologiques, effectivement.
On pourrait en déduire des événements
On peut déduire, en tout cas, à partir des traces de glissements de terrain, qu'il y a eu des événements exceptionnels à telle période. Remonter directement à la caractérisation du cyclone est sans doute très difficile, mais la géologie nous dit qu'il y a eu, à certains moments, des décharges très importantes, qui doivent être liées à des tempêtes qui ont emporté beaucoup d'eau dans telle ou telle vallée. Dans la vallée de la Roya, par exemple, ça va laisser des traces géologiques pour très longtemps aussi.
Donc on peut avoir ce type d'interprétation sur des événements passés.
Oui.
Le lien avec le climat, évidemment, il est central aujourd'hui en raison de la montée des températures, donc des températures de l'eau. Est-ce qu'il faut s'attendre justement à des événements qui vont prendre de plus en plus d'ampleur, Ludivine Oruba, même si tout à l'heure vous étiez très précautionneuse en disant qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'il y ait plus de cyclones ou une plus grande intensité. Mais en tout cas, avec les modélisations et ce que laisse présager le réchauffement climatique, qu'est-ce qu'on peut en dire là ?
Donc il semble y avoir un consensus parmi les modèles de climat pour dire qu'il n'y aurait pas forcément plus de cyclones tropicaux, mais par contre, on aurait une augmentation de la fraction des cyclones les plus intenses.
La fraction.
Donc autrement dit, c'est-à-dire la proportion des cyclones les plus intenses. C'est-à-dire que quand un cyclone se formera, il sera plus intense qu'il ne l'est actuellement. Sachant que ça peut se comprendre par le fait qu'une atmosphère plus chaude et un océan plus chaud, ça va mener à un air plus humide. Et un air plus humide, ça va mener à plus de précipitations. Et puis, il faut savoir que dans le mur de l'œil, alors on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais lorsque l'air humide s'élève dans le mur de l'œil, il va y avoir une condensation de l'eau qui va passer de la forme gazeuse à la forme liquide. Et cette condensation va être associée à un dégagement de chaleur. On appelle ça un dégagement de chaleur latente. Oui. Et ce dégagement de chaleur va nourrir la circulation du cyclone, c'est-à-dire qu'il va permettre au cyclone de s'intensifier. Donc quand on a un air plus humide, on a plus de précipitations et on a des vents plus intenses.
Sur la durée de vie d'ailleurs d'un cyclone, ça peut durer combien de temps ?
En général, c'est quelques jours. On dit que c'est des structures de méso-échelle, donc c'est une échelle de quelques centaines de kilomètres, quelques centaines de kilomètres de diamètre, et puis ça dure quelques jours. Certains peuvent durer jusqu'à 9-10 jours, mais c'est vraiment le maximum.
On ne peut pas avoir de cyclone de type jupitérien, par exemple, qui dure depuis des milliers et des milliers d'années, Bernard Legrain ?
D'abord, c'est un anticyclone.
Un anticyclone, pardon, oui.
Mais la tache rouge de Jupiter, c'est... mais... non.
Ça, ce ne serait pas possible sur Terre.
Non. Les propriétés des océans ou de l'atmosphère sur Terre ne permettent pas l'existence de ce genre d'objet.
Qu'est-ce qu'on peut dire alors avec le réchauffement de l'atmosphère, la montée des températures ? Est-ce qu'on peut estimer l'intensité des cyclones en fonction du degré de température ?
Si vous réchauffez l'atmosphère de 1 degré, elle peut contenir 7% de plus d'eau. Mais comme ça, c'est un résultat de la physique de base. Par contre, cette eau en excès produit aussi plus de chauffage, plus d'instabilité. Donc en gros, on estime que par degré supplémentaire, l'intensité des phénomènes extrêmes augmente de 20 à 30%.
Par degré supplémentaire,
oui.
20 à 30%?
Et donc on en est à 1,5 degré, on va peut-être vers 4, 5 degrés vers la fin du siècle, faites le calcul.
Ben oui, mais c'est affreux ce que vous nous dites en fait. On imagine quel type de phénomène alors, si effectivement les températures grimpent à 4 degrés ?
Ah ben on peut avoir des vents à 300 km/h et puis des précipitations auxquelles on n'est pas capable de faire face à l'heure actuelle. Il est clair que on va vers un climat où les infrastructures actuelles ne pourront pas résister aux événements extrêmes.
Est-ce que la localisation des cyclones pourrait aussi changer en raison d'une mer qui se réchauffe de plus en plus, Ludivine Oruba ?
Oui, alors là, il n'y a pas encore complètement consensus dans les simulations effectué avec les modèles de climat, donc il faut être prudent sur ce qu'on avance, mais on observerait une tendance à un décalage des trajectoires de cyclones vers les latitudes plus grandes. Donc par exemple, New York, qui se trouve actuellement à 40 degrés de latitude, pourrait, dans le futur, se retrouver menacé par les ouragans, alors que ça n'est pas le cas actuellement.
Allez, on va passer aux questions, parce qu'elles sont nombreuses pour vous. Élie demande, d'ailleurs, pour compléter ce que vous nous disiez, Ludivine Oruba, s'il serait possible d'avoir, avec le dérèglement climatique, des arrivées de cyclones sous nos latitudes françaises. Vous parliez de New York, mais...
Donc on est effectivement à une latitude plus grande que la latitude à laquelle les cyclones, les ouragans dans l'Atlantique se développent. Donc effectivement, si avec le changement climatique, on pourrait avoir des cyclones qui justement se forment au niveau du Cap-Vert et qui remonteraient vers la France. Alors sachant qu'il faut savoir que quand les cyclones remontent vers nos latitudes, leurs propriétés ont tendance à changer parce qu'ils changent d'environnement. Donc ils ont tendance à se transformer en cyclones des moyennes latitudes. Donc leurs propriétés changent, mais effectivement, c'est un risque.
Daniel nous dit, pourquoi tant de différences de prévision selon les modèles, Bernard Legrain ?
Les modèles... il n'y a pas énormément de modèles qui font ça de façon opérationnelle. Il y a des divergences parfois entre le modèle américain et le modèle européen sur ces prévisions. Il s'est avéré qu'au cours de la dernière décennie, en tout cas, les prévisions du modèle européen se sont souvent révélées supérieures aux prévisions du modèle américain. Il peut y avoir des différences dans la formulation du modèle, la façon dont les données sont traitées. C'est quelque chose d'assez complexe. Les différents centres météorologiques s'observent mutuellement et essayent d'améliorer leur performance en se calant sur le meilleur tout le temps.
Aurélie nous dit, je croyais que l'un des plus gros dégâts causés par les cyclones était les pluies diluviennes. Est-ce que c'est le cas ou pas, Ludivine Oruba ?
Effectivement, quand on parle dégâts provoqués par les cyclones, donc on pense d'abord au vent cyclonique, qui font effectivement des dégâts, mais les dégâts les plus importants, en fait, ils sont provoqués par l'eau. Alors, ils sont provoqués par les pluies diluviennes qui vont produire des crues, mais ils sont aussi provoqués par l'élévation de l'eau, du niveau de l'océan. Quand le cyclone approche des côtes, il va y avoir une élévation à cause de l'aspiration du cyclone, et puis il va y avoir une accumulation des eaux qui va induire une montée des eaux qui va s'ajouter aux crues dues aux précipitations.
Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission qui s'inscrit dans une nouvelle série de podcasts qui s'appelle Les Colères de la Terre, proposée par La Terre au Carré, et que vous pouvez télécharger à partir d'aujourd'hui pour retrouver 6 épisodes consacrés aux canicules, aux inondations, aux volcans, aux méga-feux, aux séismes et donc aux cyclones aujourd'hui. Merci beaucoup à Jean-Philippe Véret qui réalisait aujourd'hui ce dossier. Merci à toutes et à tous pour vos messages arrivés sur le site de La Terre au Carré.